19h-20h. Les informés.
Nous sommes en guerre.
Avec Adil Farkan.
Moi, président de la République.
Sur Beurre FM.
C'est ça, exactement. Bonsoir à tous. Vendredi, nous sommes vendredi. Bienvenue à vous tous. Amit Schrett, il est énervé. Je sais pas pourquoi il est vénère.
Non.
Il est arrivé, il est vénère. Alors je vais faire mon sommaire. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est parti, vous le savez. Aujourd'hui, dernier jour de la semaine, et nous sommes ensemble avec les débatteurs influenceurs qui sont avec nous en plateau, en direct, en live, pour finir en beauté cette semaine. Mais également, vous savez, vous aussi, partout en France au 01 53 48 3000, vous pouvez intervenir, commenter l'actualité, comme vous le faites si bien et chaque soir avec nous et en direct. Partout en France d'ailleurs. Et puis, je vous soumets ces trois sujets. Nous allons revenir sur ce sommet de Versailles. Vous le savez, les Européens, ça y est, les 27 chefs d'État se sont réunis. Ils ont pris des décisions effectivement concernant cette guerre en Ukraine. On en parlera tout à l'heure. Puisque Macron, au point presse tout à l'heure, avec les différents présidents, la présidente et le président, se sont mis d'accord pour dire que finalement, l'Europe, face à cette guerre, est extrêmement fragile. On en parlera tout à l'heure. Autre sujet également aussi qui a retenu notre attention, on va la commenter, vous savez, c'est cette guerre en Ukraine, avec la déclaration de Joe Biden il y a à peine quelques minutes, qui prévient, écoutez bien, mesdames et messieurs, qu'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, eh bien, elle provoquerait la troisième guerre mondiale. Aïe, aïe, aïe. Si ça, ça fait pas flipper, pardonnez-moi le terme, il y a de quoi se poser des questions. Bref, on n'est pas là pour faire flipper, nous, vous le savez, les informés, c'est pas... On joue pas sur les peurs. On joue pas sur l'émotion. Nous, on vous apporte un éclairage, un décryptage, avec différents points de vue que vous n'entendez nulle part ailleurs, je vous le dis et je le certifie. Le prix du carburant qui explose. Et ça commence à chauffer. Parce que là, pour le coup, c'est pas pour faire peur, mais beaucoup de Français s'inquiètent. Certains même sont venus me dire tout à l'heure, mais attends, le prix de l'essence est plus cher que le gasoil. Ça, c'est la première fois, m'a-t-il dit, qu'il voit ça de sa vie. Effectivement, il n'a pas tort, il a raison. Le prix d'essence est moins cher que le gasoil. On s'intéressera aussi également sur un autre sujet qui a retenu notre attention. Alors, c'est Mélenchon. Tiens, Mélenchon, selon un sondage, eh bien Mélenchon, il peut parvenir, vous savez quoi, à prendre la main et à réussir à devancer à la fois Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, et enfin franchir ce fameux second tour. Et là, je peux vous garantir que le décor sera pas le même. Parce que Macron, Mélenchon, il y en a qui peuvent s'inquiéter. Je dis pas que Mélenchon peut être président de la République. Ça veut dire... Ça représente en tout cas beaucoup de choses si Mélenchon est au second tour. Énormément de choses. Ça soulève même d'ailleurs des points que beaucoup de Français pensent évidemment tout haut, en le plaçant au second tour. 19h30, c'est le billet d'humeur de Michel Taube. C'est son billet d'humeur, comme chaque vendredi. Il nous parlera des conséquences, de l'impact, de cette guerre en Ukraine, impact en Afrique, au Maghreb, en Afrique du Nord, mais également aussi en Europe. On parlera de l'inflation, on parlera du blé, on parlera du gaz, parce que je peux vous dire que le premier continent qui va morfler, lequel ? C'est l'Afrique. L'Afrique, quand on parle de cette pleine guerre en Ukraine. Voilà le programme qui vous attend jusqu'à 20h. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression. C'est
Beurre
parti
FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
Vous avez vu ça, hein ?
C'est pro.
Ah bah j'espère. Hein.
Toujours pro.
Si au bout de 15 ans, plus de 15 ans de métier, c'est pas pro, faut aller... Je pense que je peux aller me reconvertir, hein. Je serai avocat, tiens. C'est ce que je voulais faire. En primaire.
Ouais.
En primaire, comme je vivais quelques injustices, etc. En CM1, CM2, je voulais soit être journaliste, soit avocat.
Ah bah tu vois.
J'ai bien fait d'être journaliste.
Ouais.
David Libenskind, comment ça va ?
Bah ça va.
Maître Libenskind.
Mais ça va.
Bah ça va, vous avez la forme, vous inquiétez pas. Face à vous, c'est jeune syndicaliste, auteur, Jimmy Dalidou. Comment ça va ?
Ça va.
Je présente notre Zefman.
Ouais.
Amit Schrett.
Très bien, merci. Très calme.
Ah là, je rigole, je vous taquine. Qui aime bien, ça t'y vient, non ?
Bien sûr.
qui aime bien chez
Tchèque. Et c'est bien à droite, hein, aujourd'hui. D'habitude, t'es à gauche, mais.
Oui, c'est vrai. Pourquoi à droite?
Ah ouais.
Oh, oh, j'ai changé de bord.
Je me place en fonction des sondages.
C'est ça, vous me placez en fonction des sondages.
On m'a dit que M. Macron est à 33%.
Ah, c'est ça, le mec, il joue à tous les râteliers. Vous avez vu?
C'est pour ça qu'on est tous énervés.
Il joue à tous les râteliers. Allez, messieurs, nous allons démarrer avec ce sommet. Vous savez, qui s'est tenu aujourd'hui, les Européens se disent qu'il est enfin temps de se réveiller après 20 ans d'aveuglement face à Vladimir Poutine. Que peut-on dire, évidemment, face à cela, et quand on regarde que ce sommet de Versailles a provoqué, évidemment, en tout cas, une prise de conscience avec consacrée à cette guerre, évidemment, de la Russie en Ukraine. Des sanctions vont tomber contre la Russie. Et puis on parlera de Joe Biden un peu plus juste après. Mais je voudrais d'abord qu'on s'attarde sur ce sommet de Versailles. Maître Limensky, allons-y.
Bah, c'est le festival de Cannes.
C'est le festival de Cannes. Ah oh là là, clochette. Alors,
attendez.
Mais qu'est-ce qui lui arrive, Maître Limensky?
Mais attendez, attendez. Alors déjà, c'est.
On est sérieux là.
C'est Emmanuel Macron.
C'est la guerre en Ukraine là.
C'est Emmanuel Macron qui l'a organisé à Versailles.
Ouais.
Sans doute à des fins électoralistes. On ne le veut pas. Peut-être on aurait fait pareil, mais c'est un coup de com. Après, si vous voulez, bon, c'est des coups de sommet, des sommets qui coûtent très cher aux Français pour finir sur des déclarations, mais aucune vraiment décision concrète. Après, ils ont dit oui, on va prendre des sanctions encore plus sévères, mais à force de faire des déclarations, des menaces de sanctions, ça ne fait que renforcer en fait la Russie, puisque c'est que du parler, mais il y a rien dans les faits. Donc, je pense que c'est plus une opération de communication de l'Europe, pas seulement d'Emmanuel Macron, puisque tous les dirigeants de l'Union européenne étaient là. Mais je suis en fait assez sceptique sur ce type de sommet. Je crois que l'Union européenne est habituée à ce type de réunion, mais souvent, voilà. Ça,
ils disent qu'il est temps de se réveiller après 20 ans, effectivement. Est-ce que vous... Que faut-il comprendre quand, évidemment, on entend ce type de déclaration?
Que
la guerre a provoqué, effectivement, que finalement, l'Europe était fragile.
Mais l'Europe est fragile, elle est membre de l'Europe, là, elle est membre de l'OTAN. Là, la plupart des pays européens sont membres de l'OTAN. Donc, il y a une alliance qui a été faite avec les Américains, dans l'hypothèse d'une agression par un pays tiers. Pour l'instant, la Russie n'a pas, en fait, agressé l'Europe. Elle a agressé, en fait, l'Ukraine. Donc, on est encore loin de là. Bon, sauf si elle agresse la Pologne. Là, dans ce cas-là, effectivement, la Pologne étant membre de l'OTAN, là, peut-être faudra s'inquiéter. Mais pour l'instant, je crois qu'on n'en est pas là, quoi.
Dimitri Dalidou, et ensuite après Mitch Riette. Justement, je voudrais vous entendre, vous aussi. Quel est votre point de vue?
Ouais, moi, je pense que ce sommet, je pense que c'est aussi, oui, effectivement, il y a une approche électoraliste, quand même. Candidat Macron, là, c'est pour ça un petit peu qu'il a réuni tout le monde. Mais bon, indépendamment de ça, c'est un petit peu le but du jeu. Bon. C'est un petit peu le but du jeu aussi. Hein. En même temps, il veut être réélu, hein, forcément. Mais en même temps.
Moi, je retiendrai quand même que l'Union, le que ce sommet de Versailles,
le camarade parlait,
il exclut quand même une adhésion rapide de l'Ukraine.
Non, mais ça, c'était foutu d'avance. L'Ukraine ne peut pas adhérer à l'Union européenne du simple fait. On en avait parlé la dernière fois du simple fait que c'était toute la stratégie de Monsieur Poutine. Même si, encore une fois, je ne soutiens pas la guerre qu'a déclenché Monsieur Poutine. Je soutiens les peuples et uniquement les peuples. Mais c'est quand il a refusé le vote des pro-russes le 11 mai 2014, c'était pour ça, c'est qu'il a développé.
Ça va très très loin. Non, dans l'histoire.
Ah, mais carrément, là, il a droit aussi à une clochette. C'est Jimmy Dalidou,
c'était une guerre figée.
Il faut connaître le personnage.
C'est la stratégie de la guerre figée.
Arrêtez.
À partir du moment
on est limite
où
dans la
guerre
dans
figée,
le...
tu ne peux pas
intégrer. Mais non, mais arrêtez, Jimmy Dalidou.
C'était une stratégie qui était.
Vous allez loin, là, Jimmy, là. C'est plus du complot, là.
C'est
du.
C'est une réalité.
C'est de la fiction, ce que vous nous racontez là.
C'est une réalité. Et ensuite, moi, je parlerai pas d'alliance, en fait. Je suis pas trop d'accord avec ce terme d'alliance entre.
Avec Maître Limensky.
Ouais, non.
Ah, mais l'OTAN, c'est une alliance militaire.
Non, mais hein, en fait, la France, elle est inféodée, l'impérialisme nord-américain. C'est ça, la réalité. La réalité, c'est qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais bien qu'en fait, le fric, on ne reviendra pas sur les accords de Bretton Woods du 22 juillet 1944, qui confirment, et qui en 1973, ensuite, ont confirmé le pétrodollar. La France n'a pas son mot à dire, en fait. La réalité, c'est que face au pétrodollar, la France fait ce que Washington lui dit de faire.
Oui, ça, je suis d'accord.
Donc, il n'y a pas d'alliance.
C'est une... La France reste inféodée à l'impérialisme
nord-américain.
En Europe.
Il faut pas avoir peur des mots.
Alors, il y en a un qui n'est pas d'accord. Dessus, c'est Amit Schriette, on va l'écouter.
Mais
allons-y, justement.
Il y a tellement de points. D'abord, sur la question économique, sur le sommet. Si Macron n'avait rien fait, on aurait dit, président de la République n'a rien fait. Il y a une initiative diplomatique européenne. Moi, je suis pas là pour défendre le président de la République, mais il y a une initiative européenne. Ce qu'il manquait, effectivement, et moi, ce que je critique dans ce sommet, c'est le fait de ne pas avoir invité la Russie.
Dans ce sommet-là. D'accord.
Il aurait fallu inviter la Russie et il y aurait pu avoir des discussions directes avec le chef d'État, Vladimir Poutine russe, qui reste populaire en Russie. Il ne faut pas se leurrer. Et les pays européens avec une médiation ukrainienne. On voit bien aujourd'hui qu'il est puissant.
Non, la médiation ukrainienne, si elle est belligérante.
Avec les deux parties prenantes, les deux pays qui sont belligérants, la Russie et l'Ukraine.
Alors si on invite la Russie, il faut éviter l'Ukraine.
Évidemment. Oui, oui. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, bien évidemment. On voit bien aujourd'hui les pays qui sont en train de réussir dans le cadre de la médiation, ce sont des pays neutres. Israël et la Turquie. Même si la Turquie aujourd'hui a des relations avec l'Ukraine, elle maintient ses relations avec le Kremlin. Et donc, par conséquent, moi, ce que j'attends du président de la République, c'est de maintenir cette relation diplomatique directe avec la Russie, l'Ukraine et un sommet européen. Ça, je crois que c'est...
Mais ce sont entretenus. Juste après le sommet, vous savez que le président de la République et les deux autres présidents se sont entretenus avec Vladimir Poutine.
Avec le chancelier allemand.
Sont entretenus, ils se sont parlé.
Malheureusement, la médiation aujourd'hui, la médiation qui est en train de gagner du terrain, c'est la médiation aujourd'hui turque et israélienne. On le voit bien aujourd'hui. Dans le giron diplomatique, les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté avec le ministre des Affaires étrangères Sislo de Turquie et on voit bien que cette médiation l'a réussi. Pourquoi ? Parce que la Turquie réussit à contrebalancer d'abord l'Europe qui n'a plus de crédibilité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir des sanctions économiques en même temps et en même temps ouvrir un dialogue diplomatique. Il faut avoir un juste milieu. On sait très bien que les sanctions économiques ne fonctionnent pas. Depuis 2014, il y a eu des sanctions économiques, embargo sur l'agriculture, embargo sur les armes, sur la question du gaz, la pression des États-Unis sur Stream 2. Quand on dit que l'Europe est inféodée aux États-Unis, j'aimerais bien savoir pourquoi Stream 2 a été. On a fini.
C'est Jimmy qui dit ça.
Oui. Voilà, ouais, tout à fait. L'Europe est inféodée.
Pourquoi Stream 2 aujourd'hui a terminé malgré la pression
Tu peux pas nier le fait que la plupart des échanges depuis les accords.
S'il vous plaît, Jimmy, et ensuite Maître Lévesque.
On peut pas nier le fait que depuis 1944, même après 1973, après la confirmation. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est une contradiction entre deux aspects. Premier aspect de la contradiction, c'est le pétrodollar qui se casse la gueule. Deuxième aspect de la contradiction, c'est le pétro-EN qui est en train de se développer.
Mais ça n'a rien à voir.
C'est ça la réalité. Mais si, c'est le nœud du problème.
Quel rapport avec l'Union européenne et le pétrodollar
Le rapport, c'est que tu as une triade actuellement qui est le pétrole, EN, or. Et le fait que les échanges commerciaux dans l'OCS, l'accord de coopération de Shanghai, ne se fait plus via le dollar. C'est-à-dire que c'est une économie qui se développe toujours plus et qui sont en train de court-circuiter le pétrodollar.
Pas tout à fait, mais bon. Moi, je suis pas là pour donner mon point de vue, mais c'est pas tout à fait comme ça. Mais
c'est un sujet aujourd'hui économique. On voit bien aujourd'hui que l'Union européenne a pris des décisions.
Pardon, je vous ai oublié.
Attendez,
s'il vous plaît. Non, mais j'ai coupé la parole à Maître Ivinsky.
Je vais juste répondre à ce que sa dictature de
guerre. S'il vous plaît, Maître Ivinsky.
Tu as dit qu'il y a.
Je vous laisse, Ivinsky. Je vous ai pas oublié, mais je lui ai coupé la parole à Maître Ivinsky.
Tu as dit que t'as Israël et Turquie, évidemment, qui sont engagés dans un processus de médiation, de négociation. D'accord, ce qui est très très bien, mais qui les a choisis ? C'est la Russie, en fait. Qui a choisi, en fait, ces négociateurs ?
Pas forcément.
Donc, si tu veux, je suis pas certain, en fait, que Vladimir, si cette négociation réussit, je suis pas certain qu'en fait, que les États-Unis et l'Europe acceptent le résultat de la médiation, parce que c'est quoi, en fin de compte, le résultat de la médiation? C'est tout simplement que la Russie retire, en fait, son armée d'Ukraine et que l'Ukraine soit libre.
Je vais répondre à ça. Je peux répondre?
Bien sûr.
Bien sûr. Allez-y, Amitri.
D'abord, c'est beaucoup plus complexe que ça. La Turquie a des relations à la fois avec l'Ukraine, elle a une diaspora ukrainienne, et elle a des relations avec la Russie, en même temps, Washington. La Turquie défend son agenda diplomatique.
Mais l'Ukraine, elle a aussi des relations avec l'Europe.
Mais attendez, elle a des relations avec les deux. En ce qui concerne Israël, Israël a une grande diaspora ukrainienne, d'origine juive, et donc elle connaît l'Ukraine. Et en même temps, elle a une grande diaspora. La première diaspora israélienne est une diaspora russe. Et par conséquent, Israël aujourd'hui a une vision à la fois sur la question de la Russie, c'est un allié de la Russie Israël, et c'est un allié de Washington.
Tout à fait.
Ce n'est pas noir ou blanc. La diplomatie, c'est en fonction des contextes, des agendas.
Oui, mais je suis d'accord, mais il y a aucun pays européen.
J'ai
l'impression qu'il y a des censeurs ici.
Exactement. Non, c'est pas une question de censeur.
D'accord.
Allez-y, finissez, allez jusqu'au bout. Allez-y.
On vous a laissé développer, laissez-moi développer.
Vas-y.
En ce qui concerne l'économie.
On après, t'inquiète.
Merci beaucoup. En ce qui concerne l'économie. Merci, mais et votre excellence. En ce qui concerne l'économie. En ce qui concerne l'économie, le yuan et la question du prix de dollar, certes, il y a eu des accords de Bretton Woods en 1994.
Le diplomate.
qui concerne effectivement tous les pays européens, mais aujourd'hui, la première puissance économique, et c'est un fait, c'est bien l'Union européenne aujourd'hui. L'Union européenne.
La première puissance économique,
la première puissance économique, c'est l'Union européenne. T'es sûr de ce que tu dis?
Non, non, c'est soit les États-Unis et la Chine.
La première puissance économique du monde actuellement.
Alors économique, c'est-à-dire dans quel domaine? Dans quel domaine?
La première puissance économique, c'est l'accord sino-russe. C'est l'accord sino-russe. La première
puissance
actuellement. On n'a pas les mêmes références du tout.
Le premier espace économique géopolitique.
Attendez, faites attention à comment vous dites les choses.
Non, voilà, je précise.
Ce n'est pas la première puissance mondiale économique.
Oui,
voilà, premier espace.
L'Union européenne.
Premier espace.
Là, on est d'accord. Attendez, c'est une organisation.
Moi, journaliste, je vous dis oui. Là, je suis d'accord.
Il y a bien un drapeau européen, non?
Je suis d'accord. Allez, on va marquer une première pause pub et on se retrouve tout de suite après avec Maître Limeski, Djimil Dalidou, Ahmed Chriet. Et on se retrouve vous aussi au 01 53 48 3000. Le débat est très animé et c'est comme ça en fin de semaine.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Tu te filmes là ? 19h22, les informés, c'est avec Maître David Levinskid, avec Djimil Dalidou et avec Ahmed Chriet. Messieurs, nous allons avancer quand même, il faut qu'on avance. Cette déclaration tout de suite du président des États-Unis, Joe Biden, Monsieur Biden, qui a fait une déclaration. Écoutez ce court extrait. C'était il y a à peine quelques minutes, hein, évidemment, lors d'une conférence, d'une allocution plutôt concernant la guerre en Ukraine. Écoutez.
S'il y avait cette confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, il s'agirait de la troisième guerre mondiale. Nous savons déjà que la guerre de Poutine contre l'Ukraine ne sera jamais une victoire. Il avait espéré pouvoir prendre l'ascendant rapidement, mais il a échoué. Il a échoué dans cette attaque. Il pensait que notre démocratie serait faible, ce n'était pas le cas. Le peuple américain est uni, le monde est uni. Et nous sommes aux côtés du peuple ukrainien. Nous ne laisserons pas les autocrates dicter l'ordre mondial. Les démocraties seront à la hauteur de ce moment. Nous nous tiendrons du côté de la paix et de la sécurité. Nous avons fait preuve de force et nous ne céderons pas.
Monsieur, je voudrais vous entendre. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, effectivement? S'il y a lieu d'une confrontation, eh bien, on peut parler de troisième guerre mondiale.
Alors, faut resituer peut-être le contexte de sa déclaration. Le contexte, c'était qu'on avait trouvé des armes, un laboratoire qui produisait des armes biologiques en Ukraine. C'est un peu le contexte. Et en fait, il a dit ça, si vous utilisez en fait ces armes biologiques contre la population ukrainienne, là, il y aura la guerre, quoi. Enfin, alors qu'il y a déjà la guerre, hein, puisque les Américains, je crois qu'on...
Il n'y aura pas la guerre, il y aura confrontation.
Oui, confrontation, mais la confrontation, elle a lieu, même si les États-Unis n'interviennent pas militairement, je crois qu'ils ont versé, ils vont verser 14 milliards de dollars à l'Ukraine. Donc tu parlais d'économie là, tout à l'heure. En fait, la guerre, il n'y a pas que l'aspect militaire, il y a la guerre économique, il y a les sanctions économiques, etc. Après, moi, ce qui m'embête, c'est toujours ce type de déclaration ça veut rien dire en fait. Les Américains, les Européens font des déclarations. La question qui se pose, est-ce qu'ils doivent intervenir militairement? Ça, peut-être la question se pose, hein. Cette question est légitime. Ils le font pas parce qu'ils ont peur, en fait, d'une ogive nucléaire, de prendre une ogive nucléaire. Mais on est toujours dans ces déclarations à l'emporte-pièce et il y a rien.
Déclaration à l'emporte-pièce. Alors, Djimil Dalidou, Ahmed Chriet.
Il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'effectivement, malheureusement, on utilise des termes qui font un peu peur, mais je pense qu'il faut, il y a un risque de troisième guerre mondiale qui est clair, sans vouloir jouer sur les affects. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que fonctionne l'impérialisme. Il fonctionne par la guerre. Il a besoin de ça. Et la deuxième chose...
Il fonctionne avec la guerre.
C'est une
guerre psychologique.
C'est une guerre psychologique. Deuxième chose aussi, il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait. Je me tourne vers Hamid, le diplomate. C'est que, en fait, quand on prend la diplomatie et la diplomatie, les gens, qu'est-ce qu'ils voient finalement? Ils voient une bande de gars qui ont des comptes en banque, ils sont blindés de fric, les mecs.
Alors, déclare, Hamid.
Non, mais laissez-moi finir. Ils ont le cul assis sur des liasses de billets de banque. Et pendant qu'ils parlent, ils parlent, ils font que de parler. Ils font des déclarations pompeuses.
Ah, il est
et pendant
vénère,
qu'on prône la diplomatie, il y a des bombes qui pleuvent et qui tuent des gamins ukrainiens. Ça, c'est la réalité. Alors, votre diplomatie, vous, excusez-moi de parler franchement, vous la mettrez où je pense. Parce que ça, c'est un leurre.
Ça va loin quand même, là. Ça va très très loin. C'est un leurre, la diplomatie. Donc ça,
alors, pendant que les bombes pleuvent, vous prenez la diplomatie.
Non, moi, ce que je dis,
ça, c'est de la collaboration.
En quoi devons-nous
la diplomatie, c'est utile. Il faut arrêter.
Moi, je pense bien sûr que c'est utile, la diplomatie.
Pour arriver à la
et heureusement qu'il y a la diplomatie, les amis.
Ouais, mais à un moment, elle a une limite.
Je peux alors,
la limite. Quand vous avez un peuple qui est massacré, au bout d'un moment, c'est la volonté d'agir. Il faut agir,
arrêter de parler. Amitriette, attendez, on ne l'a pas entendu.
Justement, très bonne question. La diplomatie aujourd'hui, elle est essentielle, effectivement.
Mais plus qu'essentielle.
On vit dans un monde civilisé. On ne va pas se faire la guerre. Donc il faut dialoguer avec les gens.
Donc ça veut dire, si je ne dialogue pas avec toi, je te tue.
Exactement. Et qu'est-ce que vous proposez?
En gros, c'est un peu oui, ça, Jimmy.
Moi, ce que je propose,
on se tue. On s'entretue.
Tout simplement, c'est l'autodétermination des peuples. Il faut organiser. L'autodétermination des peuples.
Contre le dialogue, alors.
Je suis en train de te dire qu'il faut organiser l'autodétermination des peuples.
Contre la diplomatie, c'est ça.
Je suis pour l'autodétermination des peuples qui doivent prendre leur avenir en main par des comités.
Et vous avez posé une question, Jimmy Dalidou. Vous êtes à la fois.
On a leur destin.
Tiens, l'Ukraine vous a répondu, M. Limetti.
Il y a des gouvernements qui sont.
Tiens, l'Ukraine, elle est autodéterminée.
Autodétermination.
Bah, on voit bien la pensée.
Bah oui,
c'est de faire
des emporte-pièces, de parler du capitalisme et finalement. Il n'y a rien du tout. C'est le zéro pointé. Il n'y a rien, aucune proposition. Donc,
Attendez, s'il vous plaît. Amin Chriette, et je vous redonne la parole.
Parce qu'on défend mes propos. Donc, dans ce cas-là, c'est ça.
Attendez. Mais laissez-le. Attendez.
Vous Amin parlez de diplomate. Lorsque je vous pose une question assez simple, qu'est-ce que vous me proposez? Vous êtes incapable de.
Non, t'as pas compris ce que j'ai dit. Je t'ai dit que je n'ai pas dit que la diplomatie.
S'il vous plaît.
Je t'ai dit qu'à
Quand
il y a des bombes qui pleuvent, à un moment,
sur
il faut arrêter de parler.
Sur Biden, la confrontation, ça, Troisième Guerre mondiale.
Voilà. Sur la question de Biden.
Quelle grille de lecture?
Moi, je crois qu'aujourd'hui, Biden, effectivement, il faut faire très attention aux propos de Biden aujourd'hui. Le président Biden, en tout cas, a eu des propos, une retenue par rapport
le
à
le grand représentant diplomate.
Il y a eu effectivement Biden, une retenue du président Biden. Biden ne s'est pas confronté. N'a pas voulu vendre des avions effectivement à la Pologne. Donc il y a une retenue de la part des États-Unis vis-à-vis de l'agression russe.
Il verse 14 milliards à l'Ukraine, donc il n'y a pas de retenue.
Il y a quand même une aide, c'est la moindre des choses quand même.
Oui, mais quand 14 milliards.
Je parle militairement vis-à-vis de l'OTAN.
Non,
les États-Unis ont dit.
Non, mais les États-Unis fournissent aussi des armes, ils ne vont pas le dire en public.
C'est vrai.
Ils ne vont pas le dire à la télévision.
Ils ne le disent pas à la télévision.
Si vous voulez, il n'y a pas une escalade.
C'est le premier fournisseur d'armes.
Non, mais attendez, au moins il n'y a pas une escalade militaire. L'OTAN ne sait pas.
L'escalade militaire, elle est là. Si, il y a une escalade militaire. Elle est grave, même l'escalade militaire. Parce qu'on vient de te dire qu'il y a un risque de Troisième Guerre mondiale.
Le problème, c'est ça. C'est qu'on
mais parce que tu n'as aucun pays membre de l'OTAN qui est agressé pour l'instant. C'est pour ça que l'OTAN ne s'engage pas.
Laissez-le finir. Vous êtes incroyable.
À partir du moment là, M. Biden, effectivement, finance l'Ukraine. Il n'y a pas que M. Biden, il y a l'Union Européenne aussi.
Tout à fait. 500 millions.
Depuis 2014, avec le putsch nazi à Maïdan.
Depuis 2014, effectivement. Mais ce sont une minorité, les nazis, en Ukraine.
Ils sont gouvernement.
C'est une minorité. Bon, pourquoi
Avant de demander d'intégration, d'intégrer l'Union Européenne,
mais ça reste
il faut d'abord il faut faire son autocritique.
C'est une minorité.
Et apporter
minorité
des réponses par rapport à ça.
Non, mais est-ce que répondre à ma question, c'est une minorité ou non?
La question, c'est pas savoir si c'est une minorité ou pas. C'est que vous avez des idées fascistes qui sont présentes. Si on avait, si c'était pareil chez nous, ça poserait pas un problème.
Ça justifie l'invasion.
Alors toi, t'es en train de me dire que
les minorités, faut les combattre.
Ça justifie l'invasion russe. Le gouvernement ukrainien doit
pas faire son autocritique. Faut les combattre.
Est-ce que ça justifie l'invasion russe?
Non, mais je suis en train de te dire que.
Est-ce que ça justifie l'invasion russe?
Ah non, je n'ai pas dit ça.
D'accord.
Me fais pas dire ce que je n'ai pas dit.
Je pose une question. Parce que
j'ai toujours condamné l'intervention russe.
On est d'accord.
J'ai toujours été du côté du peuple, qu'il soit français, ukrainien ou
russe. En fait, diplomatie.
Même si ça vous paraît utopiste.
Donc nous avons besoin de diplomatie. Dans ton état d'esprit, en fait, il faut dire que c'est le système capitaliste qui engendre les guerres. Du fait des guerres économiques,
oui,
etc.
Si tu veux.
Là, peut-être ton message serait beaucoup plus.
Oui, non, mais ça, c'est besoin de diplomatie. C'est une réalité. Mais ensuite, il faut développer.
Mais oui, après, il faut développer, mais ensuite, faut partir de la base.
Eh bien, messieurs, on continue d'en parler de Joe Biden, la confrontation, la Troisième Guerre mondiale, il est 19h30. Pour l'heure, c'est comme chaque vendredi, eh bien, le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Comme chaque vendredi, comme tous les jours, et comme chaque vendredi, c'est le patron d'Opinion Internationale, éditorialiste Michel Thau. Bonsoir. Allô, allô.
Bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
Comment ça va, mon cher Michel?
Écoutez, ça va comme à la veille d'une Troisième Guerre mondiale, n'est-ce pas?
C'est ça, exactement. Vous allez nous parler des effets de la crise Ukraine en Afrique et au Maghreb. On vous écoute pour votre billet d'humeur.
Alors, effectivement, moi, j'aimerais insister sur un point et faire un tout petit point d'histoire. En 2008, il y a eu la crise financière mondiale avec les subprimes des États-Unis.
Oui.
Et la crise financière de 2008 a entraîné, tout le monde l'a oublié, a entraîné des émeutes de la faim en Afrique.
Oui.
Il y en a eu au Maghreb, il y en a eu en Afrique subsaharienne, et ça a été très très dur. Et je pense que cette crise financière qui a été très dure a contribué probablement au printemps arabe et à la chute du régime qui avait été affaibli par cette crise financière. Eh bien, 14 ans après, la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle est beaucoup, beaucoup plus importante. Parce qu'en fait, la guerre entre l'Ukraine et la Russie a déjà des conséquences très, très, très directes pour l'Afrique, que ce soit pour, encore une fois, le Maghreb, l'Égypte, l'Afrique subsaharienne. À part les quelques États, il y en a une dizaine sur les 55 pays africains, il y en a une dizaine qui sont producteurs de pétrole. Mais pour tous les autres, la crise actuelle, elle est dramatique. Elle est dramatique parce que les coûts des matières premières flambent de façon comme on l'a jamais vu.
Oui.
Et aussi et surtout parce que l'Ukraine et la Russie, mais surtout l'Ukraine, c'était un peu le grenier à grains de beaucoup de pays africains. 90% du blé égyptien venait d'Ukraine. Or,
90%.
Or, il n'y a plus possibilité aujourd'hui d'approvisionner de très nombreux pays africains, parce qu'en fait, avec la coupure de la mer Noire par les
troupes,
et ben ça ne peut plus passer. Et donc, on est en train de vivre, nous sommes sur le point de vivre une crise alimentaire terrible. Et je ne suis pas le seul à le dire. J'entendais également Lionel Vinsou, l'ancien Premier ministre du Bénin, partager la même conviction. C'est qu'on est en train de vivre une crise terrible. Si le blocus de l'Ukraine continue pendant quelques semaines, ça va vraiment être vraiment dramatique. Et donc, il faut bien...
Mais quand vous dites dramatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une guerre civile?
Ah ben ça, non, mais là je parle pas de l'Ukraine, là je parle des pays africains.
J'ai compris, mais ça veut dire au-delà de la famine aujourd'hui,
il y a déjà beaucoup de famine en Afrique.
En Égypte, il y aura plus de blé pour pouvoir faire du pain, pour le semoule, pour le couscous. Il va y avoir des problèmes d'approvisionnement, et donc c'est ce que je appelle des émeutes de la faim. Comme ça, il y en avait déjà eu en 2008, 2009, on l'a oublié, sauf que là, elles vont être beaucoup plus importantes parce que la crise est beaucoup plus grave. Et donc, si vous voulez, ce sur quoi je veux insister ce soir, c'est que la crise ukrainienne, ce n'est pas qu'une crise européenne. Ce n'est pas qu'une crise entre la Russie, l'Europe, les États-Unis et l'Ukraine. C'est une crise qui concerne le monde entier et qui, notamment, va considérablement affaiblir nos amis des pays africains parce qu'ils sont extrêmement dépendants, notamment en matière alimentaire, mais pas uniquement, de la Russie et de l'Ukraine. Et donc, c'est un petit peu une forme d'appel aux grands de ce monde. Hein. L'Europe des 27 s'est réunie à Versailles pendant 2 jours. Il faut qu'ils se dépêchent de trouver une solution, un compromis, un accord diplomatique, parce que si la crise continue longtemps, ça va vraiment être un tsunami international pour l'Afrique, pour l'Europe et pour le reste du monde.
Un tsunami. Aïe, bon. Eh bien, écoute, bravo et merci pour ce billet d'humeur. On va suivre cela avec beaucoup d'attention, effectivement, et vous avez raison. Ça s'appelle des lanceurs d'alerte. Voilà, c'est ce
exactement,
que vous voulez faire, effectivement.
C'est
un peu ça, ce soir. Merci à vous, je vous souhaite un excellent week-end, mon cher Michel.
Merci à vous aussi, cher Adil, et salutations aux auditeurs de BRFM.
Merci, nous allons marquer la pause pub, et on se retrouve avec Maître Libensky, avec Jimmy Dalidou, avec Amine Chriette, pour parler de la flambée des prix du carburant. Ça chauffe là aussi. Eh bien, on va en parler. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et 19h40 et toujours en live, 19h40 et le standard est ouvert tout de suite, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je vais vous entendre sur la flambée des prix du carburant, les indemnités, attention, tout est en train de flambée comme pas possible. Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que cela impacte votre quotidien? J'aimerais vous entendre au 01 53 48 3000. Je donne la parole tout de suite, vous savez, à nos débatteurs influenceurs. Le prix du carburant, là, ça chauffe quand même, hein, messieurs. Hein. Ouais. Maître Libenskind, ben, est-ce que ça nous renvoie pas, vous savez, oui, à cette fameuse... 17 novembre, absolument, merci de le rappeler, en plein gilet jaune.
Tout à fait, 17 novembre 2018.
Ça risque de se reproduire,
les gilets jaunes. Est-ce que ça va se reproduire? Je ne pense pas, en tout cas à court terme. Les gens aimeraient bien les gilets jaunes, mais aimeraient bien que ça se reproduise, mais je ne pense pas. Après, ce qui est important de dire, que c'est alors ça touche évidemment toute l'Europe, mais c'est en France, hein, où en fait le prix de l'essence, le prix du gazole augmente le plus rapidement.
En Espagne, non. En Espagne, non, il augmente pas comme ça.
Oui, mais c'est en France, je crois.
C'est en France, 2 euros.
Oui, combien en Espagne?
1 euro et des poussières.
Oui, voilà. Mais donc, ce que je disais, c'est en France, en fait, où les
flambées,
où il y a une flambée de prix.
C'est ça.
Donc, est-ce que les Français vont réagir? Parce que il y a beaucoup de personnes.
Et là, ils font plein, je pense
aux provinciaux.
La misère sociale.
L'essence est plus chère que le gasoil aujourd'hui, messieurs. C'est inédit.
La misère sociale fait toujours réagir. Juste reviendrai sur un point sur le.
Jimmy Dalidou.
Est-ce que les gilets jaunes vont se reproduire? Alors pas dans ce sens-là. Je veux dire, en fait, l'idée qui a généré les conditions matérielles et les qui ont généré les idées des gilets jaunes, parce que c'est bien des conditions d'existence matérielle générant des idées qui se prend forme sous la qui ont pris forme la forme des gilets jaunes. Eh bien, cette base matérielle, économique, sociale, politique, cette base qui est la misère sociale qui s'accroît, ces idées-là vont se développer, oui, et apprendront d'autres d'accord. formes. Ouais, en fait, il faut avoir une vision dialectique, un mouvement global, une vision, priorité numéro un des Français, la même idée va prendre des formes différentes. Donc si c'est pas les gilets jaunes, ça prendra une autre forme, c'est pas grave. Et nous, les syndicalistes révolutionnaires, on est là. Et là, je reviendrai sur les bases de mon organisation, la CGT. Les syndicalistes révolutionnaires, nous sommes là pour accompagner le développement de cette idée, qui s'oriente vers la destruction.
Mais dis donc, depuis que vous êtes à la radio, depuis que vous venez aux informés, je vois
la destruction des inégalités sociales.
Je reconsiste ce que vous dites.
Le syndicat révolutionnaire n'était pas là dans le mouvement des gilets jaunes. Il les a attendus pourtant.
Oui, ça c'est vrai. Ah, il a pris une clochette.
Les révolutionnaires, ils étaient là pendant le mouvement des gilets jaunes.
Le mouvement des gilets jaunes était là.
Mais j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas une contradiction entre les syndicalistes à la base et la confédération.
C'est la CGT.
Ah, non, on n'en a pas encore parlé.
Non, c'est pas le sujet, messieurs.
Tour de table.
Allô, s'il vous plaît. Oui. Flambée, prix du carburant et tout explose.
Oui, effectivement, la crise aujourd'hui sociale sur la question de...
Bientôt chez le boucher aussi, vous allez voir. Non, mais c'est vrai.
Sur la question du gasoil, depuis la crise du Covid, ça s'est accentué aujourd'hui. On voit la pauvreté, on voit les inégalités, on voit les gens qui sont morts du Covid. Ce sont majoritairement des gens qui vivent dans des banlieues, dans des quartiers populaires. Beaucoup de gens du Covid, et ça, ce n'est pas dit aujourd'hui dans les médias.
En Seine-Saint-Denis.
Le taux le plus fort, Seine-Saint-Denis.
Oui, Seine-Saint-Denis, ouais.
Ça vous prouve que la condition sociale... est lié aussi avec la condition sanitaire.
Ah là là là.
Et donc les inégalités ont explosé.
Ils n'ont pas cru, ils ont explosé.
Il y a une explosion des inégalités sociales.
100 000 nouveaux pauvres.
Une explosion de la répartition des richesses. Et le vrai débat aujourd'hui dans notre pays, c'est quoi? Il est en un seul point. C'est l'égalité, la répartition de la richesse nationale aujourd'hui.
Bah, j'ai entendu dire que c'est des milliards là qui vont se répartir chez Total. Chez les actionnaires.
Comment répartir cette richesse-là? Au-delà des slogans de syndicalisme révolutionnaire,
En tout cas, tu la répartiras pas par la diplomatie, je te le dis.
Tu vas finir sur une charrette,
on va aller au château de Versailles et prenez la répartition des richesses.
Arrêtez les slogans utopistes. 2. Avoir de la diplomatie pour pouvoir discuter avec tous les Français.
Ça y est, il est reparti diplomatie.
3. Faire des propositions, car une révolution se prépare en amont, et lorsqu'on fait une révolution...
La révolution, c'est un processus.
Oui, mais Hamid,
c'est effectivement
un processus. Hamid, ce sont les slogans utopistes. S'il n'y avait pas eu les slogans utopistes, il n'y aurait pas eu 1789, on n'aurait pas fait la révolution.
Et ni 1917, et 1871, et ni non plus 1968, et on reviendra aussi sur 1830 et 1848.
Et tu vas me rejoindre sur la question des gilets jaunes, aujourd'hui, le problème des gilets jaunes...
Il n'y a pas eu de diplomatie, d'ailleurs.
Qu'ils n'avaient pas, effectivement, de programme politique, il n'y avait pas...
Non, c'est faux, t'es mal enseigné. Ils avaient un programme... Le vrai débat, en fait, c'est un recueil de 59 propositions qui a été organisé par des gilets jaunes.
Exactement.
Voilà. Et des universitaires. Et des universitaires. Sur la question, ils avaient 59
propositions. Non, mais là-dessus, il a raison, il y avait des propositions concrètes.
Non, mars 2019.
Il y avait des propositions concrètes.
Mars 2019.
Moi, elles ont été étouffées par les médias, notamment par les médias qui ont fait le jeu de l'exécutif et qui ont empêché le développement des propositions concrètes des gilets jaunes.
Pour faire face au grand débat d'Emmanuel Macron.
Il y avait des grandes mesurettes, certes, des gilets jaunes, mais
c'était pas des mesurettes, c'était des propositions concrètes.
C'était des mesurettes, mais
il a raison, Ce n'était pas des mesurettes,
on ne dirige pas un pays avec 100 propositions, faut arrêter là.
Si t'écoutais BFM à l'époque, effectivement, t'as pas entendu les propositions.
On vit dans un monde aujourd'hui.
On dirige un pays avec des principes déjà à base.
Référendum, etc.
Il n'y a pas que ça, il y a pas 59.
6ème République, c'est
59 revendications.
Concrètement, lorsque vous avez des échanges avec des pays, lorsque vous critiquez l'Arabie Saoudite, comment vous allez avoir du pétrole? Lorsque vous critiquez le Qatar, comment allez-vous avoir du gaz? Comment allez-vous négocier dans la diplomatie?
Mais qui a critiqué le Qatar? Les génies jaunes n'ont jamais critiqué le Qatar ou l'Arabie Saoudite.
En autodétermination, la France.
Les gilets jaunes étaient en galère, ils voulaient améliorer leur existence.
Tu regardais BFM à l'époque, parce que ce que tu dis est complètement faux.
Moi, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, et on le voit dans la crise sociale, l'impact Attendez, laissez-moi terminer.
Tu ne peux pas dire que les gilets jaunes étaient démesurés, que leurs propositions étaient démesurées.
Laissez-le finir, s'il vous plaît. Après, on doit traiter le dernier sujet qui est très passionnant aussi.
Aujourd'hui, écoutez, c'est simple. L'impact aujourd'hui social et économique, on le voit bien qu'elle est liée avec l'économie globalisée aujourd'hui.
Oui, oui.
On le voit bien.
La crise
économique aujourd'hui.
Sinon, on va pas s'en sortir.
Du Maghreb. Et il l'a dit dans son édito,
Michel Taube.
On voit bien aujourd'hui que nous vivons dans une ce qu'on appelle une économie globalisée.
Oui, mais depuis longtemps.
L'emboîtement économique.
Et c'est fait. C'est vrai.
Nous sommes aujourd'hui interchangeable.
Il a raison, c'est vrai, c'est fini, ça y est.
Terminé. Donc lorsque vous appelez à la révolution, lorsque des gens, certains critiquent l'Arabie Saoudite, d'autres critiquent des pays africains, d'autres critiquent le Qatar, vous avez besoin du Qatar, vous aurez besoin de l'Arabie Saoudite et vous aurez besoin de pays.
Oui,
et
mais donc, nous, on n'a jamais critiqué ces pays-là.
Et donc, par conséquent, aujourd'hui, nous avons besoin d'une diplomatie, d'une entente,
d'un
dialogue des civilisations pour pouvoir aujourd'hui essayer de défendre les intérêts des peuples. En dernière instance, qui souffre aujourd'hui, ce sont les peuples. Et la diplomatie se base sur ça. Le dialogue.
Mais c'est bizarre parce que quand il y a eu des propositions concrètes,
le dialogue doit l'emporter.
Tout à fait.
C'est le dialogue qui doit l'emporter. Et non pas si tu veux, les gars. Dernier sujet, messieurs, il est 19h48.
Désolé, ça n'a pas fonctionné.
Dernier sujet, s'il vous plaît, messieurs. Macron qui progresse encore dans les sondages et les candidats, évidemment. Peine à avancer hein, quand on parle de Valérie Pécresse, quand on parle aussi également d'Éric Zemmour. Mais bon, il y en a un qui sort un peu du lot, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, on pose la question. En tout cas, allez poser la question, messieurs. Et ce soir, je vous la pose. Alors, avec ce bond à 33,5% des intentions de vote, Mélenchon est troisième. Mais la question se pose, il peut se retrouver au second tour. Alors là, quel signal que doit-on comprendre, évidemment, si Mélenchon se retrouve au second tour face à Emmanuel Macron? Jimmy Dalidou.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que si Mélenchon passe au deuxième tour, et ça avant même que les élections, j'en parlais déjà avec mes collègues sur le terrain, et je leur avais déjà dit à l'époque, je suis conducteur de train de travaux chez les cheminots, et on a pas mal de temps pour discuter. Et déjà à l'époque je leur disais
merci
vous allez
pour
non,
non, non, non, non,
c'est non, 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 que ça à faire quoi.
Travaille
beaucoup. Non,
c'est à dire ça pas c'est
elle
grave.
Elle est facile celle-là.
Il parle de la SNCF.
C'est ce que vous avez dit, Jimmy. Vous avez dit, vous savez, il faut savoir.
On n'a pas besoin de dénoncer
ces deux. Non,
c'est pas les syndicalistes.
Je veux pas développer sur les syndicalistes professionnels.
Ah oui, voilà.
Non, mais tu sais, les syndicalistes boivent beaucoup de
café.
Tu sais ce que c'est, tu sais ce que ça veut dire être bloqué à un signal rouge en plein milieu de la nuit à 3h du matin? Tu l'as déjà fait?
Bon, c'est pas le sujet, camarade.
C'est pas le sujet.
Laissez
tranquille, Jimmy Dalidou.
Laissez-moi finir sur le sujet.
Oui, allez-y, Mélenchon.
Mélenchon au deuxième tour, ça c'était, on l'avait déjà dit à l'époque, et en tout cas, ça donne, ce sera un indice de mesure très important, parce que ça va démontrer qu'en fait, il y a une véritable colère sociale qui est en train de
c'est
monter.
C'est ça que ça veut dire.
Une colère sociale
comme ça que je
qui veut, qui cherche à s'organiser dans une certaine mesure.
Il poursuit sa progression, Mélenchon.
Et elle veut s'organiser, cette colère sociale-là. Elle espère, pour l'instant, elle espère que cette colère sociale pourrait s'orienter d'une manière constructive à travers les prochaines élections présidentielles. Et c'est ça qui va représenter Mélenchon. Maintenant, s'il passe, de toute façon, on va se mettre en application ce qu'on appelle la règle du moindre mal. Mais en tout cas, il faudra qu'il prenne ses responsabilités et qu'il n'oublie pas qu'en France, il n'y a pas que des bourgeois. Il y a aussi une couche populaire. Il y a aussi une classe moyenne.
Je crois qu'il le sait, Mélenchon.
Non, mais il le sait, mais il faut qu'il mette en application.
C'est son électorat, ça cible.
David Levinsky, je voudrais vous entendre. Je dois rendre l'antenne. David Levinsky.
David Levinsky, s'il vous plaît. Alors, tant mieux pour Jean-Luc Mélenchon, mais il nous refait le coup de 2017. 2017, c'est pareil, il a progressé vers la fin, en fait, de la campagne présidentielle. Mais le problème, c'est que malheureusement, pour lui, Jean-Luc Mélenchon, c'est un bon candidat de premier tour. Mais il pourra pas se rassembler au deuxième tour quand tu vois qu'en fait, que la droite plus l'extrême droite, ça fait du 45-50%.
C'est ça.
La France est à droite. Enfin, si on à en croire les sondages.
Ah non, mais c'est vrai, la France est à droite.
Mais quand tu vois l'état du Parti Socialiste qui est à 1,5%, quand tu vois l'état des petits candidats de gauche, il n'arrivera malheureusement, je le précise, hein, il n'arrivera malheureusement jamais à rassembler au second tour. Et ça va être son problème.
Écoutez, tout dépendra d'abord des quartiers populaires. Est-ce que les quartiers populaires voteront pas pour Mélenchon? Et notamment des abstentionnistes. Moi, je pense que, en tout cas, il n'est pas trop tard aujourd'hui pour convaincre les gens qui sont à la fois réticents. Il y a des gens, n'oubliez pas, dans le camp macroniste.
Réticents, indécis.
Laissez-moi, oui. Indécis. Il y a des gens aussi dans le camp macroniste qui doutent, qui ne votent pas. Il y a des gens aussi, peut-être qui peuvent changer, qui peuvent être persuadés, convaincus par les propositions de Jean-Luc Mélenchon.
Et qui se disent, dans le micro, s'il vous plaît.
Qui se disent finalement, nous allons voter pour Jean-Luc Mélenchon. Donc,
Jean-Luc Mélenchon n'a rien à voir avec Emmanuel Macron.
Les dés ne sont pas joués encore. Mais ça ne vous a pas échappé qu'il y a aujourd'hui des gens du Parti Socialiste et des gens de tendance de gauche, hein, qui se sont approchés, pour ne pas dire, ont tissé un pacte avec Macron.
Oui, mais comme en 2017, c'est comme en 2017.
Ça ne vous a pas échappé
que Ségolène Royal... C'est peut-être des gens qui ont des redressements fiscaux, qui ont des
pouvoirs. Ça ne vous a pas échappé que Ségolène Royal, ancienne candidate contre Nicolas Sarkozy en 2007, en 2012...
Voilà, soutenu Mélenchon. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne nouvelle pour Mélenchon d'être soutenu par Ségolène Royal.
C'est un poids. C'est
à mon avis. C'est plus un poids négatif.
C'est un poids aujourd'hui politique qui est important, et je crois qu'elle dit aujourd'hui le seul candidat qui est capable de réunir...
Le problème, c'est qu'il n'arrivera jamais à rassembler au deuxième tour.
S'il vous plaît, laissez-le finir.
Mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, j'ai du mal à finir mes phrases.
Oui, j'ai vu que Jimmy et Maître Levinsky...
Tu as fait des efforts. Tu apprends la diplomatie très bien. Mais excuse,
je deviens diplomate. Là, tu vois,
voilà, il devient diplomate.
Il est sorti du léninisme.
Mais là c'est
je ne suis plus le marxiste-léniniste, je suis devenu diplomate. Tiens.
Mais c'est pas une tare d'être diplomate. Hein.
Au contraire.
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que quand on dit quand on prend la diplomatie, c'est un petit peu incohérent.
Vous me voyez, je vais rendre l'antenne.
Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, il y a une dynamique mélenchoniste aujourd'hui du parti. Et aujourd'hui, cette crise sociale, la crise économique aujourd'hui, que les Français sont en train de subir avec le gasoil et le pétrole, on voit bien aussi la crise aujourd'hui géopolitique en Ukraine favorisera considérablement l'électorat de gauche dans un point de vue global.
Exact.
Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui.
Merci, générique de fin.
Donc attendons, patientons.
Enfin,
et voilà.
Oui, générique de fin.
De la pédagogie.
Merci. C'est Time Sport, ça. Bah oui, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est pas encore Time Sport, monsieur le réalisateur. Il a décidé de lancer le générique avant l'heure. Merci à Maître David Levinsky. Rappelez-nous que vous êtes aussi au QG.
Oui, alors je suis animateur sur le média web.
Faisons un peu de pub.
QG, Quartier Général, que vous pouvez en fait trouver sur Facebook, sur YouTube, sur Telegram, etc. Voilà, allez-y, allez voir et vous verrez.
Jimmy Delidou, syndicaliste CGT, mais également auteur où
plusieurs articles publiés sur le Grand Soir Info. Et
il y a un livre. Aïe, le Grand Soir Info.
Et un livre qui s'appelle le Grand Soir Info. Et un livre qui s'appelle L'Évangile de la philosophie de la Révolution.
Oh là là.
Je vais retrouver un marxiste.
Amine Friette, à bientôt.
Joli pour Mathis, bientôt.
Géopolitologue, et merci d'être venu.
Merci à vous aussi.
Toujours des belles analyses, Amine.
À vendredi prochain,
si j'ai compris. Même si on n'est pas d'accord, mais il y a toujours des belles analyses.
Vous êtes là pour ne pas être d'accord, forcément. Vous pouvez être d'accord, et pas tout le temps.
Je crois que tout le monde ici, de toute façon, participe.
Merci à la réalisation, à Yanis. C'est très animé. Merci à vous. Très animé ce soir. Merci aux auditeurs. Bilal Nedman vous donne rendez-vous de 20h à 21h. Moi, je vous retrouve dès lundi pour un nouveau rendez-vous, pour une nouvelle semaine. D'ici là, j'ai envie de vous dire, on ne lâche rien. Portez-vous bien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.